Germaine Berton, une meurtrière de 20 ans. Après le récit de son acte meurtrier, plus fatiguée qu'émue, Germaine Berton s'assoit et l'audience est suspendue. À la reprise, le président revient sur le drame en posant toutes sortes de questions. La jeune femme explique qu'elle ne tient pas à la vie et que peu lui importe si demain les royalistes la tuent. Le président lui rappelle que Marius Plateau était jeune, que c'était un glorieux mutilé de guerre. N'a-t-elle pas de regret d'avoir tué un tel homme? Non, aucun regret. Elle pense à tous ceux que Plateau a fait envoyer au bagne ou condamner à mort parmi ses camarades, et non vraiment, aucun regret. Maître Campinchy, avocat de la famille de Marius Plateau, lui demande alors si elle regrette de ne pas avoir tué Léon Daudet. Son avocat, Maître Torres, veut l'empêcher de répondre, mais elle le fait, sereine. Oui, elle regrette de ne pas l'avoir tué. La séance du 19 décembre est attendue. Léon Daudet, Charles Maurras et Jacques Allard doivent témoigner. On commence par le commissaire de police qui a procédé aux premières constatations et reçu les aveux de l'accusé. Il confirme qu'elle n'a jamais nié sa culpabilité et toujours affirmé avoir reçu l'arme des mains d'un ami, sans préciser lequel. Puis, c'est au tour du médecin qui a examiné la blessure que Germaine s'est infligée. Il déclare qu'elle s'est ratée de peu. Quand Charles Maurras arrive à la barre, il commence par un éloge de Marius Plateau, ami fidèle et collaborateur modèle. Puis il expose les directives de la politique poursuivie par l'Action française. Sa déposition est surtout un monologue, puisque Maurras est presque totalement sourd. Il termine en affirmant que ceux qui laisseront leur peau dans ce combat seront très honorés. Aussitôt, Maître Torres rebondit. Puisqu'offrir sa vie est une gloire, que pense M. Maurras de Léon Daudet, qui demande une protection policière alors que Marius Plateau s'expose à sa place au coup de feu de Germaine Berton. Maurras s'indigne de la question, tandis que dans la salle, des applaudissements retentissent. Des murmures d'approbation s'élèvent, tant pour Maurras que pour Torres, qui tournent au brouhaha général. Le président menace de faire évacuer la salle, mais de vives discussions s'engagent sur les théories soutenues par Maurras dans son journal, sur les coups de force des camelots du roi et la violence au service des idées et de la patrie. « Quand on fait appel à la violence, déclare Maître Torres, il ne faut pas s'étonner qu'elle se retourne contre vous. » Raoul Villain, assassin de Jaurès, est la graine de violence semée par l'Action française. Elle a armé le bras de Germaine Berton. Se sentant en confiance, Maurras poursuit le développement de ses idées. Mais sans solive, l'avocat général l'arrête en déclarant que la cour n'est pas le lieu pour développer ses théories, ce que le président approuve. C'est Jacques Allard qui dépose ensuite. Il est le secrétaire, mais aussi le beau-frère de Léon Daudet. Puis vient Léon Daudet. Quand Daudet termine de répondre aux questions du président et des avocats, Germaine Berton se lève et s'adresse à lui. Elle lui explique qu'elle n'agit pas pour de l'argent, jamais. Ce qu'elle ne pardonne pas à Daudet, en plus de son attitude concernant la Roure, c'est l'assassinat de Jaurès qu'elle admirait depuis l'enfance grâce à son père. C'est de sa faute à lui, Léon Daudet, si Raoul Villain est devenu un assassin. Ses écrits l'ont poussé à l'action, l'Action française. Puis, reprenant la question posée la veille par le président, Germaine Berton déclare avec aplomb à Léon Daudet qu'elle regrette d'avoir tué Marius Plateau à sa place. Sans un mot, ni même un frémissement de moustache, Daudet se retire. Le troisième jour du procès s'ouvre sur une exhortation au calme. Son effet n'est pas durable. Le premier témoin qui vient à la barre est le médecin qui est intervenu auprès de Marius Plateau et de Germaine Berton aussitôt après le drame. Il se souvient qu'elle lui a demandé de dire à ses amis qu'elle avait fait son devoir. Le témoin suivant est Maurice Pujot, rédacteur en chef de l'Action française. L'enchaînement des questions et des réponses l'amène à parler à nouveau de la théorie de la violence au service de la raison. Maître Campinchy et Torres débattent au sujet de la violence qui va jusqu'à l'assassinat, de la violence qui y mène et de la différence entre coup de matraque et coup de revolver. Seule la sagesse du président parvient à clore la dispute. Toutes les violences sont répréhensibles. Arrivent enfin quelques témoins de la défense. Un ancien employeur de Germaine Berton témoigne en faveur de son zèle. Puis c'est au tour de l'oncle de Germaine de s'approcher. En le voyant, les jeunes femmes fondent en larmes. L'oncle raconte les rapports difficiles entre Germaine et sa mère, qui ne parvenait pas à comprendre le désir de liberté de sa fille. La défense fait ensuite défiler de très nombreuses victimes de la violence de membres de l'Action française ou des Camelots du Roi. Ces dépositions suscitent à nouveau de violents débats. Il faut interrompre la séance. Quand elle reprend, on rappelle l'injustice que fut pour tous l'acquittement de Raoul Villain, assassin de Jaurès. Ce rappel n'apaise pas les esprits, car cette injustice fut une provocation pour la classe ouvrière. Pendant que les avocats se déchaînent pour ou contre la légitime violence, Germaine Berton se lève et déclare haut et fort que l'acquittement de l'assassin est la raison de son geste. Ah oui, c'est vrai, Germaine Berton. Il s'agit de son procès tout de même. On aurait tendance à l'oublier tant les débats se politisent. Le lendemain, les débats reprennent dans le même climat houleux. Il faut dire que d'autres témoins encore sont des victimes des Camelots du Roi. Partisans et adversaires de l'Action française s'affrontent et les provocations succèdent aux protestations. Le président a tant de mal à tenir son procès qu'il fait évacuer la salle. Quand la séance reprend, il réitère son appel au calme. À peine ferme-t-il la bouche que deux témoins se prennent à partie, se jurant de terminer leur discussion au bout d'une épée ou d'un pistolet. Le lendemain, les débats sont plus calmes. Léon Blum témoigne et affirme que Jaurès n'aurait jamais consenti à ce que sa mort soit vengée par la mort de son meurtrier. Ferdinand Buisson, député et président de la Ligue des droits de l'homme, pense qu'il faut se demander quel retentissement a pu avoir sur le cerveau passionné de Germaine Berton le meurtre de Jaurès et l'acquittement de son meurtrier. Le professeur Hamon est alors appelé à la barre pour parler de la psychologie des anarchistes et des assassins politiques. À la question de Maître Copinchy, qui lui demande quelle sanction mérite Germaine Berton, il répond sans hésiter « l'acquittement ». Puis d'autres témoignages, dont celui d'un médecin, vont dans le même sens, mais en s'appuyant sur l'enfance et la jeunesse de Germaine privée d'amour maternel. Puis enfin, les avocats se lancent dans leur plaidoirie. Pour la partie civile, Maître Deroux. Il tente de minimiser l'importance des violences commises par l'Action française. Ce ne sont pas elles qui ont armé le bras de la meurtrière. Il lui dénie la gloire d'être la vengeance de Jaurès, car, dit-il, la vengeance de Jaurès méritait des mains plus pures. Il est hué. Maître Campinchy, avocat de la victime de Marius Plateau, délimite le terrain du débat. Il ne s'agit pas de choisir entre l'anarchisme et l'Action française, mais de juger Germaine Berton, qui, de son propre aveu, a commis un crime. Ce crime, elle ne le regrette pas. Et pire, son seul regret est de ne pas avoir tué Léon Daudet. Que pourrait-elle faire si on lui rend sa liberté ? L'avocat général se montre ferme, sans être impitoyable. Il établit la cruauté du crime commis, sa préméditation, et demande un châtiment. Mais il rappelle les sentiments chrétiens de la victime Marius Plateau et admet des circonstances atténuantes. Après le déjeuner, c'est au tour de Maître Torres, l'avocat de la défense, de plaider. Quelques mots suffisent pour qu'il empoigne l'auditoire et l'accroche à son éloquence. Il fait un portrait si saisissant de sa cliente qu'elle se met à pleurer. Deux jurés pleurent aussi. Il termine par ces mots. « Vous l'acquitterez comme vous avez acquitté Raoul Villain, le meurtrier de Jaurès. Sinon, vous laisserez croire que de Jaurès ou de Marius Plateau, ce n'est pas Jaurès qui est le plus grand. Et Germaine Berton, comme Raoul Villain, rentrera demain dans l'oubli. » Le jury se retire, on attend. 25 minutes sont à peine écoulées qu'il revient. Le premier juré lit le verdict « acquitté ». Dans la salle, les « c'est une honte » se mêlent au « vive la République », les coups de sifflet aux applaudissements. Le président fait à nouveau évacuer. Germaine Berton, qui avait quitté la salle pendant les délibérations, rejoint le box des accusés. Informée du verdict, elle se tourne vers les jurés, tous des hommes, et les remercie. On est le 24 décembre 1923. Après sa libération, Germaine Berton donne quelques conférences, fait parfois le coup de poing avec ses amis anarchistes et amaille à partir avec la police à plusieurs reprises. Puis elle disparaît des radars et de la presse. Comme l'a suggéré son avocat, l'acquittement lui a ouvert les portes de l'oubli. Elle n'a pas tenté de tuer à nouveau Léon Daudet, qui a pu continuer à déverser dans les colonnes de l'Action française sa haine du juif, du franc-maçon et de l'étranger. Ce sont les artistes surréalistes qui vont s'emparer de l'image de Germaine Berton. On voit en couverture du premier numéro de la revue La Révolution surréaliste en 1924 un photomontage à partir du portrait de la jeune meurtrière. Louis Aragon lui dédie un poème. Mais Germaine n'en devient pas pour autant une vedette. Trop originale, trop anarchiste sans doute, elle retourne à l'anonymat de la classe laborieuse. Elle se suicide en juillet 1942, 3 jours après la mort de Léon Daudet.